Religion du monde. Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous recevons dans cette première partie de Religion du monde Mohamed Bajrafil, imam à Évry, théologien, universitaire, linguiste, secrétaire général du Conseil théologique musulman de France, et il est une des figures en France des réformateurs de l'islam. Alors après l'islam de France l'an 1 aux éditions Plein Jour en 2015, il publie aujourd'hui chez les mêmes éditeurs Réveillons-nous, lettre à un jeune musulman français. Mohamed Bajrafil, bonjour.
Bonjour.
Alors déjà quelques mots sur vous. Vous êtes né en 1978 aux Comores. Vous avez grandi dans un milieu très religieux puisque votre père est imam. Et très jeune, vous allez apprendre le Coran. Et très jeune, vous allez vous lancer dans les études coraniques. Vous avez un franc-parler, vous parlez cash, j'allais dire, à ce jeune musulman auquel vous vous adressez, qui est empêtré dans une liste d'interdits inculqués par ceux que vous appelez les bigots. Alors cette liberté de ton, est-ce que vous la devez au fait d'être né, d'avoir grandi aux Comores ?
Je ne pense pas que ce soit dû à cela, c'est plutôt parce que je pense qu'il est temps qu'on se réveille, et quand on veut réveiller quelqu'un, il faut parfois savoir le brusquer dans son intérêt. Donc c'est pas parce que je serais d'origine comorienne, ou c'est pas parce que j'ai grandi, comme vous avez dit, dans un milieu plutôt religieux, que j'ai eu à être, comme tout jeune comorien d'ailleurs, initié au Coran très tôt. Ça me donne pas plus que ça le droit de parler comme je veux à n'importe qui, mais c'est parce que je l'aime bien, ce jeune homme, c'est parce que je tiens à lui, parce que je voudrais que il grandisse dans les meilleures conditions qu'il soit, et qu'il arrive surtout et c'est un pari très difficile aujourd'hui, étant donné les temps qui courent, réconcilier à la fois sa vie en 2018 et sa foi, parce que les deux ne sont pas incompatibles.
Mohamed Bajrafil, vous êtes théologien, et de cela vous vous en servez pour justement apporter à ce jeune la contradiction, j'allais dire, à des arguments qu'il va vous sortir, par exemple, sur, je sais pas, être koufar, par exemple, être le mécréant, voilà, la grande insulte aujourd'hui.
Oui, parce que, encore une fois, il faut parler de ce qu'on sait. Et je pense qu'une des choses que j'ai voulu atteindre à travers ce livre, à travers cette lettre que je lui adresse à ce jeune, bien c'est qu'il faut savoir apprendre à se taire quand on ne sait pas, et éviter de se lancer dans des considérations dont on maîtrise ni les tenants ni les aboutissants. Or aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est permis à tout un chacun de parler de tout, y compris de ce qu'on ne sait pas. Donc j'ai pris des termes, j'ai pris des concepts qui sont malheureusement utilisés à tort et à travers par Monsieur Tout-le-Monde, sans pour autant savoir exactement de quoi il en ressort dans les traditions à la fois théologiques, juridiques et traditionnistes de l'islam. Et ce qui est sincèrement particulier dans cette manière de voir les choses, c'est de dire à chaque fois que si on lui dit une chose, il doit s'attendre à ce qu'on lui en dise 36 000 autres, parce que c'est ça la richesse de la tradition. Or, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est justement de lui proposer une idéologie que je qualifie de post-it dans le livre. En gros, c'est blanc et noir, tout est binaire en fait, et c'est pour cette raison que la dichotomie halal-haram interdit permis, et aujourd'hui, ce qui, chez ces jeunes hommes ou cette jeune femme, eh bien, l'argument qu'on lui sort le plus souvent. Et ça le conduit à vivre des contradictions incroyablement rocambolesque.
Alors justement, à propos de haram et de halal, il y a une liste que vous dressez qui est tout à fait intéressante. Du 9e au 16e siècle, c'est la liste des péchés majeurs. Hein, et oui. Vous prenez à ce moment-là différents jurisconsultes. Eh bien, cette liste du 9e au 16e siècle est passée de 13 à 466.
Oui.
Mais alors, est-ce que c'est pas ça aussi l'islam, quand même, malgré tout ?
Alors, il faut distinguer de ce point de vue-là deux choses. D'abord, ce que nous appelons l'islam originel.
Oui.
L'islam originel, si vous me permettez cette expression, c'est l'islam tel que révélé dans le Coran et vécu et pratiqué par le prophète. Cet islam-là se distingue très souvent de ce que les humains en ont fait par la suite. Et c'est là où je trouve que autant cette bigoterie que ce que j'appelle les fachos, le prennent en otage, parce que cet islam révélé dans le Coran et vécu ou incarné par le prophète, est un islam d'une tolérance incroyable, d'une liberté à la fois de ton et de pensée et d'action sans précédent historique. Ce qui se passe, c'est que l'islam des hommes, entre guillemets, se développant, se propageant, n'a jamais pu être défait des réalités qui étaient celles de ces derniers. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On a confondu l'islam originel avec ce à quoi sont parvenus des hommes, comme vous et moi, avec tout ce que cela veut dire, en termes de qualité, mais également en termes de défauts, en termes de réalité, mais également en termes de changement. On a confondu cela avec l'islam originel, qui est symbolisé par ce qu'on appelle les thabit, ce qui est immuable, avec on a confondu cela avec ce que ces gens-là ont vécu. Et quand on dresse cette liste-là, justement, j'ai voulu la dresser pour que les gens comprennent dans quoi on nage. C'est-à-dire que les traditions coraniques et prophétiques nous apprennent que ce qui est interdit, c'est ce que Dieu a considéré comme tel. Et ce qui est permis, c'est ce dont il nous a rien dit, en gros.
Par défaut.
Et le problème, c'est que ce qu'on fait, c'est qu'on a fait réduire en peau de chagrin cet océan de permis pour donner la place à ce qui est interdit. Alors que ce qui est interdit, si vous regardez les interdits coraniques, c'est des choses à compter sur les doigts d'une main. Vous réunissez les deux mains, vous avez quasiment regroupé l'ensemble des interdits du Coran. Or, il y a quand même plus de 6235 versets. C'est énorme. Et de se rendre compte, la disproportion qui existe entre d'un côté ce que dit le Coran et de l'autre ce que nous sommes créés. Donc cette liste-là, elle est là pour alerter les gens en nous disant, attendez, du temps du prophète, notamment à partir même de ceux qu'on appelle les pieux prédécesseurs, dont on brandit le nom ici et là aujourd'hui sans savoir exactement ce qu'on y met derrière, et tout en oubliant encore une fois que c'était des hommes avec tout ce que cela suppose. Eh bien, on va s'apercevoir, et c'est ce que j'ai fait dans le livre, que le premier à avoir écrit sur les péchés majeurs, il s'appelait Al-Birdiji, il est mort en 301 de l'Hégire. Et le dernier à avoir écrit sur cette même question, il s'appelle Ibn Hajar al-Haytami, qui est mort en 974 de l'Hégire. On s'aperçoit que, comme vous l'avez dit à juste titre dans votre question, on est passé de 13 péchés majeurs à 466. Il y a un problème.
Il y a une inflation, là, très nettement.
C'est plus une inflation, là. C'est une explosion. Ça a été multiplié par je ne sais combien. On a multiplié par 100. Des fois, tu te dis, mais il faut qu'à un moment donné, on s'arrête. Et c'est un peu à cela que j'invite ce jeune, en lui disant de vivre sa vie, en partant de l'idée que ce qui est interdit, c'est ce que Dieu a décrété comme tel. Aujourd'hui, on nous a par exemple pas dit qu'Internet c'était interdit ou je ne sais quoi. Encore qu'il y a des choses qui mériteraient de l'être quand on voit la violence qui s'y déverse. Mais encore une fois, l'islam fait confiance à l'homme. Il le prend tel quel. Tu es un homme, avec tout ce que cela veut dire, en défaut comme en qualité, et on te fait confiance parce que finalement tu auras à rendre compte de ce dont ta tête est productrice, pas de ce dont les autres sont producteurs. Et à partir de là, on fait confiance au libre arbitre de l'individu, et ce libre arbitre-là, Dieu lui a laissé le choix de choisir entre le bien et le mal, parce que comme les anciens théologiens l'ont découvert et l'ont dit à juste titre, je pense notamment à un monsieur qui s'appelle Al-Aziz ibn Abd al-Salam, le sultan des savants, et je l'ai noté dans le livre, eh bien, il dit qu'en réalité, tout ce qui est dans le Coran, tout ce qui est véritablement musulman doit pouvoir être déduit indépendamment de la révélation par le cerveau, par l'intelligence. Donc je dis à ce jeune, responsabilise-toi, n'écoute pas ce que je dis ou ce que d'autres disent. Tout ce que nous disons, il faut que tu le passes au crible de ta raison. Et c'est un peu pour cette raison que j'ai mis cette liste dans le livre.
Écoutez Religion du Monde, notre invité est Mohamed Bajrafil pour son livre « Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman ». Mohamed Bajrafil, il y a quelques instants, vous disiez, voilà, l'islam responsabilise le musulman. Dans le même temps, la question de la liberté de conscience est quand même problématique en islam. Regardez l'apostasie, hein, changer de religion, c'est interdit. Il y a un certain goût de l'excommunication en islam. Il y a un paradoxe là.
Alors justement, je vais vous reprendre là-dessus, parce qu'encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut savoir distinguer l'islam originel, oui, de ce que Les musulmans en ont fait par la suite. L'islam, en islam, il n'y a pas de délit d'apostasie. On a créé, je le dis dans le livre, on a créé une peine qu'on appelle Haddur Riddah, la peine de l'apostasie. Oui. Mais ce n'est pas dans le Coran.
Et là, on prête cette phrase au prophète.
Exactement. Man baddala dinahu faqtuluhu, celui qui change de religion doit être tué. Et je l'ai évoqué dans le livre en montrant que le Coran est rempli de je ne sais combien de passages qui dénoncent au contraire le comportement des tyrans comme Pharaon, qui a menacé de crucifier les magiciens pour avoir dit croire au Dieu des enfants d'Israël.
Oui, mais là je parle de la phrase du prophète. Mais
bien
il
sûr.
L'a prononcée ou
non,
pas?
Non, justement. Je dis, et c'est pour ça que je vous dis que, en fait, ça n'existe pas en islam. Par contre, dans la jurisprudence musulmane, qui, elle, est le fruit de la lecture des hommes, oui, ça existe. Et tant qu'on n'aura pas compris cela, on restera dans ce flou. En islam, encore une fois, dans le Coran, et là, vous pouvez demander à qui vous voulez, aucun verset du Coran ne parle de tuer quelqu'un qui change de religion. Parce que ce qui est assez paradoxal dans tout cela, c'est que finalement, on pousse les gens à être hypocrites. C'est-à-dire que vous, qui ne croyez par exemple plus à l'islam, on va vous demander de rester, de faire comme si, alors que vous n'y croyez pas. Donc en gros, on aide les gens à devenir hypocrites. Et ça, c'est très important de le souligner. Donc en islam, il n'y a pas de peine, je le dis encore une fois, il n'y a pas de peine d'apostasie. D'ailleurs, les théologiens d'aujourd'hui essayent de montrer que, en fait, si ce propos-là a été tenu, eh bien, c'est pour parler d'une haute trahison, mais pas pour quelqu'un qui change de religion, parce qu'il existe des traditions diverses et variées qui nous parlent de gens qui sont venus dire au prophète qu'ils ont changé de religion, et contre lesquels jamais le prophète n'a demandé que soit appliquée une quelconque peine. Donc, finalement, on voit que la jurisprudence, parce qu'elle émanait de gens qui vivaient dans un monde qui dominait l'autre, donc le monde musulman, exactement, un contexte politique de domination, d'hégémonie, ce que moi j'appelle la jurisprudence hégémonique, eh bien, les gens qui ont vécu à cette période-là, eh bien, en sont venus à penser que les choses devaient se passer ainsi, mais ce propos-là ne peut pas être un propos du prophète, et c'est pour cette raison que, autant dans ce qu'on appelle les chaînes de transmission, sanad en arabe, que dans ce qu'on appelle matn, le texte lui-même, eh bien, ce texte-là a fait l'objet de divers débats et beaucoup n'ont pas hésité à le considérer comme n'étant pas fondé.
Alors, il y a des débats en islam qui paraissent à certains moments totalement aberrants. Vous citez là ce débat autour des parents du prophète. Alors là, je pense à l'enfer. Hein, l'enfer pour ceux qui ne sont pas musulmans.
Bien sûr.
Alors, le gros problème, effectivement, à un moment donné, semble-t-il, pour certains, fut est-ce que les parents du prophète vont aller en enfer? Ce qui est quand même des questions littéralement aberrantes.
Oui.
Et certains ont fait ressusciter les parents du prophète pour dire, bah finalement, non seulement ils sont, après le fait qu'ils soient ressuscités, eh bien, ils se sont convertis à l'islam.
Oui.
Ah, mais on arrive à des situations aberrantes, enfin des interrogations aberrantes, là.
Encore une fois, parce que c'est dans des traditions, c'est dans les traditions qu'on apparente au prophète. Et ce qui est beau dans toutes ces interrogations, c'est qu'on s'aperçoit qu'il est encore question là de l'effort humain. Ce n'est pas le texte révélé. Et cela, c'est ce à quoi en réalité j'appelle tout le monde parmi mes co-religionnaires. C'est de faire nettement le distinguo entre ce qui relève de l'intangible, ce qui est le texte révélé, de ce qui relève de ce qu'on appelle l'interprétation. Or, on confond souvent les deux. Alors, le propos, justement, c'est en effet d'une aberration totale. Et moi, je l'ai écrit dans le livre. Pourquoi? Parce que au cours de ma formation, en tant que jeune garçon, à l'âge de 9-10 ans, j'ai appris un livre qui s'appelle Hadiyatul Ikhwan, qui est l'œuvre d'un grand théologien comorien qui s'appelait Al-Habib Omar, comoro yéménite, dans lequel on nous apprenait justement le dogme. Et dedans, on m'a appris des vers qui, justement, traitaient de cette question, parce que encore une fois, la question a divisé les gens. Est-ce que les parents du prophète vont aller en enfer ou pas? Alors que, tu dis... Donc, tout petit, on nous a appris cela. On m'a appris, c'est un poème entier. Tu te dis, ça, on m'a appris que Dieu a ressuscité, aurait ressuscité les parents du prophète pour venir témoigner devant lui, pour ensuite être sauvé de la gêne, parce qu'ensuite, il serait mort. Et ça m'a frappé, en fait, le gamin que j'étais, et ça m'a tellement frappé que j'ai cité la phrase telle quelle sans avoir, bien que ça remonte à 30 ans derrière, sans avoir eu besoin de retourner vérifier la source. Parce que je sais que c'est dedans. Ça m'a frappé, vraiment, je me suis dit, mais j'avais
9-10 ans. Ça marque quand même sur une phrase, effectivement.
Tu te dis, mais comment on en est arrivé à là? Et c'est justement parce qu'encore une fois, on a mélangé l'islam originel avec ce que les hommes font au quotidien de ce message. Et ça, c'est quelque chose qui interroge tout le monde. Oui.
Mais Mohamed Bajrafil, est-ce qu'il n'y a pas justement une sorte d'épuisement sur des points, des interrogations qui n'ont pas de sens, hein?
En fait, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai écrit le livre. J'invite, et vous avez pu le voir, le jeune à s'intéresser davantage à l'utile qu'au futile. Ces questions de ce que vous deviendrez à l'au-delà, c'est pas de mon ressort. Comme c'est pas du vôtre non plus. Nous avons à construire un bateau commun qui s'appelle la vie. Nous vivons en France en 2018. Peu importe ce que vous deviendrez demain. Moi, je pense, j'ai le droit de penser que je suis sur le droit chemin. C'est mon droit. Mais vous avez aussi le droit de penser que vous êtes sur le droit chemin. Et ensuite, qu'est-ce qui, au fond, nous occupe aujourd'hui? C'est comment vivre ensemble? Comment faire ensemble? Parce que nous sommes, comme dit un proverbe mondingue, comme les dents et la langue étant appelées à cohabiter, nous nous querellerons, c'est normal. Je ne veux pas me disputer avec Donald Trump que je ne connais pas, mais je me disputerai avec vous que je vis, avec qui je vis au quotidien. Donc c'est de dire que, en fait, nous sommes, entre guillemets, condamnés à vivre ensemble. Nous devons apprendre à vivre ensemble, nous devons apprendre à construire ensemble. C'est ce qui nous intéresse le plus. Nous avons des défis communs, indépendamment de toutes ces questions qui me regardent moi en tant que croyant, qui vous regarde peut-être pas, parce que vous ne l'êtes pas ou parce que vous croyez en autre chose. Et à partir de là, ces questions, on les laisse de côté, comme on dit, et ça me regarde moi, ces questions-là, moi je les laisse pas, parce que c'est ma foi. En revanche, vous, ce qui doit me lier à vous, c'est quoi? C'est comment les routes sont construites, comment nous allons faire en sorte que je ne vous marche pas dessus.
Une bonne école, que,
exactement, une bonne école, de très bons hôpitaux, le devenir, le chômage, la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà les questions auxquelles je demande aux jeunes de s'intéresser.
De savoir si c'est haram ou halal.
Exactement.
Quoi, hein. Et vous dites à ce jeune, ne te sens pas le damné de la terre. Pas de victimisation. Vous lui dites ça.
Oui. Alors je lui dis cela parce que, encore une fois, je veux pas faire dans l'angélisme, il y a des choses qui ne vont pas.
Bien sûr.
Il y a un racisme qui ne peut pas être nié, il y a des problèmes. Mais en même temps, en face, il y a énormément de choses qui marchent. Il y a une école qui est gratuite, obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Il y a des choses qui vont.
Oui, vous dites en gros, effectivement, comparé aux États-Unis, nous...
Il n'y a pas photo. Moi, je le dis d'autant plus que...
Les frais universitaires.
Les frais universitaires. Moi, je lui ai cité mon cas, mais je pense que vous, mais comme tout le monde, pourrait dire cela. Moi, j'ai cité une anecdote. Quand je suis parti aux États-Unis, j'ai vu à Stanford combien coûte une année universitaire. Ce que j'ai fait en 8 temps d'études après le bac, c'est le 10e, voire le 20e ou le 30e de ce que coûte une année universitaire.
Une année, absolument. Enfin, absolument.
C'est incroyable. Donc, de dire, il y a des choses qui vont. Mais, vous savez, dans ce pays, et je pense que c'est aussi son côté français à ce jeune, on aime toujours parler des trains qui arrivent en retard et guère de ceux qui arrivent à l'heure. Et ça, c'est un problème franco-français. Et c'est en cela que ce jeune est très français. C'est de toujours parler du verre, de le voir qu'il est à moitié vide alors qu'on pourrait le voir à moitié plein.
Pour conclure, moi je retiens deux choses. Mohamed Bajrafil, faire le tri dans la jurisprudence, élaguer un certain nombre de choses, revenir à l'essentiel et puis respiritualiser l'islam.
Oui, oui. Parce qu'il fut un temps où, alors moi c'est pas très ancien, chez moi quand tu naissais forcément dans une confrérie. Une confrérie soufie parce que ta mère était d'une confrérie, ton père était d'une autre. En tout cas c'est mon cas, moi je suis né dans deux ou trois confréries limite. Et on nous poussait, on faisait des études, on étudiait le Ghazali, le grand Ghazali, le grand penseur musulman. On étudiait d'autres œuvres qui nous apprenaient à nous interroger davantage, à nous scruter à l'intérieur de nous-mêmes, au lieu de nous intéresser aux apparences des uns et des autres. Donc je pense que c'est là le cœur du problème, c'est en effet de voir les avis juridiques qui ne sont plus en phase avec nos réalités, les mettre de côté, et puis respiritualiser, c'est vraiment le mot, afin qu'on apprenne, comme le dit le prophète, à nous occuper davantage de nos défauts, plutôt que de voir la paille qui est dans l'œil d'autrui.
Je vous remercie Mohamed Bajrafil. Je rappelle le titre de votre livre, Réveillons-nous, lettre à un jeune musulman français, et c'est publié aux éditions Plein Jour. Place à l'info, on se retrouve après le flash, restez à l'écoute de RFI.
Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bienvenue dans cette deuxième partie de Religion du Monde. Avec notre invitée Marion d'Absence, nous allons parler du bouddhisme tel qu'il est vécu et a été conçu en Occident, loin, parfois très loin, de ses origines asiatiques. Qu'ont-ils fait du bouddhisme ? C'est le titre de son livre publié chez Bayard, avec un sous-titre qui donne la teneur du propos, une analyse sans concession du bouddhisme à l'occidental. Un bouddhisme qui a pénétré largement le grand public avec les livres de Mathieu Ricard, le moine bouddhiste français, traducteur du Dalai Lama et du sociologue des religions Frédéric Lenoir. Marion d'Absence est docteur en anthropologie de l'école pratique des hautes études. Initiée au bouddhisme, cette universitaire a mené une grande enquête sur les coulisses des centres bouddhiques en France qu'elle raconte dans un précédent livre, Les dévots du bouddhisme chez Max Milo. Témoignage édifiant de dérives sectaires avec abus de pouvoir, abus sexuels, soumission, humiliation, loin de la sagesse souriante véhiculée par les médias. Son second livre s'attache à démontrer comment l'Occident s'est construit un bouddhisme à sa mesure, et cela dès le 19e siècle.
Le bouddhisme dont on parle en Occident, et particulièrement le bouddhisme de la méditation, hein, puisqu'aujourd'hui on parle surtout de méditation, ça n'a pas grand-chose à voir avec le bouddhisme traditionnel des Asiatiques. Donc j'ai voulu voir quelles étaient les différences et pourquoi il y avait ces différences. Et ces différences viennent de l'histoire européenne essentiellement. Donc c'est au 19e siècle qu'on a réinventé ce bouddhisme, ce Bouddha, et la méditation.
Pourquoi le 19e siècle ? Est-ce que c'est parce que c'est le siècle où on voyage, mais le siècle aussi de l'anticléricalisme, d'une certaine opposition au christianisme ?
Oui, c'est au 19e siècle qu'on réinvente la figure du Bouddha et le bouddhisme qui serait une philosophie, et on l'invente contre le modèle du christianisme, parce que beaucoup de penseurs et de savants de cette époque étaient des anticléricaux et des personnes qui voulaient instaurer une société occidentale sur de nouvelles bases, et ont cherché d'autres modèles et d'autres messies en quelque sorte. Et le Bouddha a émergé au bon moment. On a découvert ces textes sur le Bouddha en plein dans ce questionnement sur les origines de la pensée européenne, et ça permettait de réinventer une nouvelle pensée pour l'Occident qui se passerait du christianisme en effet.
Parce que le bouddhisme était perçu effectivement comme une religion sans dieu, comme une religion sans dogme, sans rite.
On en a fait une religion sans dogme. Alors faudrait revenir sur les termes de dogme, etc. Mais on en a fait une philosophie parce qu'on l'a découvert à ce moment-là, plus précisément dans les textes. Et ce sont des savants qui n'ont jamais mis les pieds dans des pays asiatiques. Donc ils ont eu une vision tronqué ou partiel du bouddhisme, une vision littéraire, intellectuelle, déconnectée des pratiques des Asiatiques. Donc c'est pour ça qu'on en a fait quelque chose de philosophique, d'abstrait, etc.
Alors là, je pense évidemment au livre de Frédéric Lenoir, hein, qui présente Bouddha notamment comme un philosophe, ce qui passe finalement très bien d'ailleurs auprès du grand public. Alors si on revient aux origines, si on revient à la vie réelle de Bouddha, pour vous, c'est absolument pas ça. Bouddha n'est pas un révolutionnaire, comme on a pu le présenter, et encore moins un philosophe.
Alors, il y a une partie de philosophie dans son enseignement, mais on ne peut pas le réduire à ça. Et là, je m'appuie sur les travaux d'un bouddhologue américain qui s'appelle Donald Lopez, qui a écrit justement des synthèses de ce qu'on peut trouver dans les textes anciens. Et on voit que le Bouddha, c'est une personnalité très complexe. C'est à la fois un être qui a des pouvoirs surnaturels, qu'il faut croire sur parole, il faut avoir foi en lui. Et le premier don qu'il a fait à l'humanité, c'est une relique. Quand ses disciples lui ont demandé de leur donner quelque chose, il a donné un cheveu. Il a tiré un cheveu de sa tête et il leur a donné. Et ensuite, ce sont ces reliques qui ont fait l'objet d'un culte. Et c'est ça le bouddhisme au départ. C'était le culte des reliques du Bouddha. Alors après, il y a en effet eu des développements philosophiques importants dans le bouddhisme. On ne peut pas réduire le bouddhisme à une philosophie. Et le Bouddha, c'est une notion très compliquée dans le bouddhisme asiatique. C'est une personne, mais aussi, c'est aussi un concept. Ça représente l'éveil. C'est quelqu'un qui a eu des pouvoirs surnaturels. Donc on ne peut pas le réduire à un philosophe.
Dans le même temps, Bouddha aura apporté cette vision tout à fait nouvelle de l'impermanence, du fait que la vie est une succession de situations, elle est dominée d'abord par l'impermanence. Il y a quand même une notion philosophique là-dedans.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Il y a, je ne nie pas, et Donald Lopez ne nie pas non plus l'aspect philosophique, mais on ne peut encore une fois pas réduire le bouddhisme à une philosophie. C'est comme si on réduisait le catholicisme aux pensées de Pascal, par exemple, quelque chose de très intellectuel, de très poussé. Oui, alors certes, il y a ça, mais il y a aussi beaucoup de rituels, il y a une hiérarchie, il y a tout un tas de choses. On ne peut pas réduire une religion, là, en l'occurrence, à une seule de ces dimensions, parce que ça nous arrange.
Est-ce que le bouddhisme est une religion ou une spiritualité ? S'il y a des rituels, on peut considérer que c'est une religion.
Alors le problème du mot religion, c'est qu'aucun chercheur ne s'entend là-dessus, sur la définition qu'on peut donner à ce terme. Et le problème aussi, c'est que c'est une notion qui a émergé dans un contexte particulier, le nôtre, qui est le contexte européen, qui est imprégné à la fois de culture gréco-romaine et de culture judéo-chrétienne. Et il est très difficile de plaquer le mot religion sur d'autres réalités, en fait, que le christianisme. C'est ce que dit d'ailleurs Rémi Braque dans son récent ouvrage, où on met dans le même panier tout un tas de choses différentes sous le terme de religion. Donc, il faudrait s'entendre sur une définition de la religion avant de dire si c'en est une ou si c'en est pas. Mais à partir du moment où il y a du surnaturel, la volonté de sortir du monde tel qu'il est aujourd'hui, une forme de survie de l'âme, même si l'âme n'existe pas vraiment dans le bouddhisme, c'est compliqué, mais en tout cas, il y a cette idée qu'il y a autre chose au-delà du monde matériel. Le fait qu'il y ait des rituels et des hiérarchies, ça, en effet, ça relève de ce qu'on appelle habituellement une religion. Oui.
La méditation, Marion d'Absence, telle qu'elle est pratiquée en Occident, n'est pas du tout celle qu'enseignait le Bouddha. Alors, cette méditation pratiquée en Occident, est-ce qu'on peut véritablement lui donner le label de bouddhique ?
Alors, la méditation telle qu'on l'enseigne aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'on appelle la pleine conscience ou shamatha, le calme mental, shiné en tibétain. Et c'est une pratique qui consiste en fait à concentrer son esprit sur un point, de manière à l'apaiser, le concentrer et le rendre disponible pour des pratiques rituelles beaucoup plus poussées. Donc c'est une pratique que l'on fait avant de faire des rituels et qui n'a pas tellement de valeur en soi. C'est-à-dire que c'est comme si un pianiste, on lui faisait faire des gammes toute la journée et que sur scène il allait jouer ses gammes. Ça n'a aucun intérêt pour le public. Les gammes ont de l'importance parce qu'elles permettent de s'entraîner à jouer des morceaux, mais ce sont les morceaux qui sont intéressants et qu'on va jouer sur scène. Et de la même manière, cette méditation du calme mental, c'est simplement pour que l'esprit soit calme, concentré, qu'il ne soit pas distrait par tout un tas de choses, pour qu'il puisse ensuite passer à des pratiques rituelles beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes. Et ce sont ces pratiques qui sont importantes surtout. Donc le calme mental, ça peut se pratiquer, ça s'est en effet pratiqué dans certains pays, dans certaines populations monastiques asiatiques, mais c'était pas une pratique tellement importante, ou en tout cas que ne pratiquaient pas non plus les laïcs. Et ça n'avait certainement pas pour but de relaxer ou de favoriser un mieux-être émotionnel ou psychologique. Ça avait plutôt pour but, comme le dit le tibétologue et bouddhologue Donald Lopez, de provoquer un stress, parce qu'il s'agit, à travers ces pratiques rituelles, de prendre conscience de l'impermanence, justement, et du fait que le monde, la vie, est souffrance et qu'il faut en sortir. Donc c'est pas pour s'aménager un confort psychologique ou émotionnel ou encore moins matériel.
Auprès du grand public, le bouddhisme est présenté aujourd'hui comme une voie du bien-être, une voie du bonheur. La notion de bonheur n'existe pas dans le bouddhisme. C'est tout le contraire, il faut se libérer des malheurs de ce monde.
C'est surtout la souffrance qui est mise en avant dans le bouddhisme plutôt que le bonheur. Ou alors, par bonheur, il faudrait entendre cet état que les Grecs appelaient l'ataraxie, par exemple, donc l'absence de passion. L'absence de haine, l'absence d'envie et surtout l'absence d'ignorance, c'est-à-dire que ce sont les trois poisons que les bouddhistes tentent d'échapper, si vous voulez. Mais on ne parle pas de bonheur, si ce n'est un bonheur qui serait en quelque sorte négatif, c'est-à-dire l'absence de souffrance. Mais on ne recherche pas le bonheur à proprement parler, ça c'est typiquement occidental.
Et l'état d'éveil, c'est effectivement être absolument en dehors de toutes ces attractions terrestres.
Alors il y a plusieurs conceptions de l'éveil dans les différentes écoles bouddhiques, donc c'est très compliqué. Mais en tout cas, l'éveil, au départ dans le bouddhisme ancien, c'était plutôt la libération, donc le fait d'échapper au cercle sans fin des vies, des morts et des renaissances. L'ignorance conduit les êtres à se réincarner, à renaître dans le monde, parce qu'ils sont attachés au monde de par leur ignorance, et le but c'est de sortir de ce cercle. Et le mot utilisé c'était extinction, hein, libération ou extinction. Ensuite il y a eu d'autres conceptions qui ont été développées par la suite dans d'autres écoles, où là l'éveil c'est plus rejoindre une espèce de retrouver un état de Bouddha, un état éveillé originel qu'on trouverait dans tout être vivant. Donc il y a plusieurs options, plusieurs définitions, c'est très compliqué, mais voilà, donc l'éveil c'est plutôt lié à la sortie du cercle sans fin des renaissances.
Sur cette question de libération, hein, libération de l'être humain, libération des souffrances, alors on apprend, moi j'ai appris par votre livre, que le Bouddha avait en fait, à la naissance de son fils, il n'avait même pas pris dans ses bras, parce qu'il ne voulait pas s'y attacher, puisqu'il avait décidé effectivement que sa vie serait une quête. Et son fils, il l'a appelé Rahula Entrave. C'est terrible.
Oui, enfin, de son point de vue, le monde est illusoire, les joies et les bonheurs de la vie sont illusoires puisqu'ils ne durent pas. Donc c'est ça la question de l'impermanence, c'est que même si on se sent bien, qu'on connaît un bonheur particulier, il est condamné à disparaître. Donc il ne faut pas s'y attacher. Et là, en l'occurrence, en effet, la venue au monde de son fils, ça l'attacherait, ça l'empêcherait de se lancer dans sa quête de la libération. Et donc, il voit ça comme un obstacle, oui, comme une entrave.
Et donc, il va l'abandonner, en quelque sorte, ou en tous les cas, s'en détacher même pas, puisqu'il ne s'y attache même pas. Il va s'en écarter pour aller vivre cette vie de mendiant pendant plusieurs années.
Oui, c'est ça. Il le laisse avec son épouse. Donc il abandonne sa famille et son palais pour se livrer à cette quête de la libération. Et c'était quelque chose qui se faisait beaucoup à cette époque. Il y avait beaucoup en Inde d'ascètes qui recherchaient la libération. Donc c'était pas quelque chose d'extraordinaire au départ.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Alors ce bouddhisme, Marion, d'absence que vous décrivez dans votre livre, quand il fait du bouddhisme, c'est un bouddhisme qui se marchandise aussi aujourd'hui. Et ce que l'on apprend en fait, c'est que bouddhisme et argent ont toujours fait bon ménage, même en Asie.
Non, dans les pays asiatiques, on faisait souvent payer les rituels effectués par des spécialistes religieux. C'était un service que rendaient les religieux, par exemple dans le domaine des funérailles, par exemple, hein, et même encore aujourd'hui au Japon, où le bouddhisme est quasiment exclusivement utilisé pour les funérailles, il y a des dons d'argent qui sont faits en échange des rituels. Donc ça, c'est quelque chose d'ancien. Et puis, les laïcs, de manière générale, dans les pays bouddhistes, devaient financer les communautés religieuses. Donc, ils faisaient des dons aux communautés qui, en échange, se chargeaient d'apporter des mérites, ce qu'on appelle des mérites à la collectivité. Donc, des espèces de bonus karmiques. Donc en fait, c'est pas nouveau le lien entre... Il y a toujours eu des relations d'argent.
Là, en l'occurrence, ça n'est pas malsain, ces relations-là. C'est un échange.
Bon, de toute façon, il s'agit pas de dire si c'est malsain ou pas. Simplement, voilà, c'était un échange de services. On fait payer un service que des spécialistes rendent. Donc c'est quelque chose qui peut se comprendre, qui fonctionnait comme ça dans ces sociétés-là. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est la même chose. Certains chercheurs considèrent que c'est simplement qu'on a changé de contexte, qu'on a changé de contexte, on est aujourd'hui en Europe et que donc la structure sociale, la culture est complètement différente, donc les choses ne fonctionnent pas de la même manière. Donc là, le bouddhisme a dû s'adapter à une société capitaliste. Mais fondamentalement, on peut se dire que c'est pas très différent, il y a toujours eu une commercialisation. La seule chose, c'est que là, on propose de faire payer les gens pour leur apprendre ce qu'on appelle la méditation, sans jamais définir exactement ce que c'est, et en restant très flou sur les objectifs de cette pratique. Et que n'importe qui, quasiment, peut aujourd'hui s'instituer professeur ou enseignant de méditation, sans avoir de qualification, alors que traditionnellement, il fallait être moine, il fallait être lama, pour ce qui est du Tibet, et on ne s'improvisait pas comme ça, professeur de méditation. D'ailleurs, on ne vendait pas, on n'enseignait pas contre argent une pratique, on délivrait une sorte de résultat, en fait, avec les rituels. Donc, c'est assez différent.
Marion d'Absence, quand vous voyez un Mathieu Ricard, par exemple, le moine bouddhiste Mathieu Ricard, être invité au sommet de Davos, ça vous choque ou au contraire, vous trouvez que c'est bien finalement que le bouddhisme s'invite dans les plus hautes instances économiques
hein? Ça ne me choque pas, j'ai pas d'avis personnel à donner là-dessus, si ce n'est que...
Mais qu'est-ce que ça révèle?
Oui, ça révèle quand même encore un malentendu au sujet du bouddhisme, et c'est-à-dire qu'on se demande quand même ce qu'un moine qui devrait être dans son monastère à faire des rituels vient faire dans des instances internationales comme Davos. On a l'impression que c'est quand même beaucoup de... Il est question souvent quand même beaucoup d'argent. Après, pourquoi pas, mais il faudrait en effet se mettre au clair sur ce que c'est vraiment que le bouddhisme et ne pas choisir que ce qui nous intéresse. Et c'est un petit peu le cas aujourd'hui avec les Occidentaux qui vendent d'une manière ou d'une autre du bouddhisme ou de la méditation. C'est de ne pas être au clair sur ce que c'est et de ne pas donner l'intégralité des enseignements.
En même temps, le bouddhisme, même si ça n'est pas... Il n'en a pas le monopole, promeut l'altruisme. Par exemple, à Mathieu Ricard, promeut l'altruisme. Il n'y a pas d'instrumentalisation là-dedans. C'est positif, finalement, de promouvoir l'altruisme, même sous une autre forme que celle des religions traditionnelles.
Alors, pour ce qui est de l'altruisme, là, je vous donnerai quand même mon avis personnel. C'est que c'est bien d'en parler, mais je pense que ça se démontre mieux par la pratique. Hein. C'est-à-dire que je pense, par exemple, à des... Dans d'autres domaines religieux, par exemple, enfin, dans d'autres religions, Mère Teresa, par exemple, ou des gens comme ça, avait quand même plus à dire sur l'altruisme que Mathieu Ricard. Hein. Elle n'a peut-être pas écrit de pavés de 400 pages sur l'altruisme, mais elle l'a pratiqué, elle l'a vécu, et ça a eu des effets concrets.
Bon. Beaucoup de religieux à travers le monde, d'ailleurs, oui. Le pratiquent. Hein.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est mon avis personnel. Après, pour une question un peu plus de fond, cette question de l'altruisme ou de la compassion, j'en parle dans le livre, ça devrait aller jusqu'à se prononcer sur des sujets très tabous en Europe ou en Occident, notamment la question de l'avortement. On parle beaucoup du droit des animaux, on s'émeut de la manière dont on abat les animaux, etc. Donc Mathieu Ricard et d'autres en parlent, mais il n'est pas logique, s'il parle du sort fait aux animaux, a fortiori, il devrait parler du sort fait aux embryons et aux fœtus. Or, il n'en parle jamais parce que c'est politiquement incorrect et tabou, mais pour un bouddhiste, normalement, c'est encore pire de tuer un embryon ou un fœtus que de tuer une vache pour la manger.
Pour quelle raison, dans le bouddhisme, effectivement, ça n'est pas accepté?
Parce que l'embryon, le fœtus, est un être vivant, c'est la vie qui se développe. À partir du moment où on a ce qu'on appelle le prana, qui n'est pas seulement la respiration ou l'air, mais aussi une sorte de métabolisme, le fait de se développer, de grandir, de croître. À partir du moment où un être a ce prana, c'est un être sensible. Donc on ne peut pas y toucher, on ne peut pas lui faire de mal. Donc voilà, là c'est un exemple d'incohérence et de sélection dans la pensée bouddhique. On prend ce qui nous arrange. Alors c'est bien vu de défendre les animaux, je suis totalement d'accord, mais dans ce cas-là, on devrait aussi défendre la vie sous toutes ses formes, et notamment au moins se poser la question de la légitimité de l'IVG. Un bouddhiste, théoriquement, devrait le faire.
Est-ce que le karma, cette sorte de comptabilité, hein, des bonnes et des mauvaises choses que nous portons en nous, est-ce que cette comptabilité, si je puis dire, en Occident, a été comprise de la même façon qu'elle a été élaborée en Asie par Bouddha?
Souvent, quand on parle de karma ici, on a l'impression que c'est une fatalité, c'est-à-dire j'ai un mauvais karma, ou quand les choses fonctionnent mal, on dit bon, c'est mon karma, etc. C'est pas dans ce sens-là exactement qu'il faut le comprendre. En fait, le karma pour les bouddhistes, c'est en effet ça peut se comprendre avec l'image d'un compte en banque, c'est-à-dire on engrange des points positifs ou bien on engrange des dettes. Et chaque acte que l'on pose et chaque pensée que l'on a, en fonction de la motivation, c'est-à-dire si on cherche à faire le bien, ça sera un point positif, et si on cherche à nuire à autrui, ça sera un point négatif. Ça s'accumule dans une banque, et il faut absolument un jour régler ses dettes, en quelque sorte. Et la renaissance est liée à cette idée de karma, et on peut payer aujourd'hui pour un karma négatif des dettes très très anciennes, tout comme les crimes qu'on pourrait commettre dans cette vie conduiront dans la prochaine vie ou dans de très nombreuses vies plus tard à des conditions très défavorables, de vie très défavorables. Donc par exemple une renaissance sous forme d'un insecte ou d'une bête amenée à souffrir particulièrement. Par exemple, on donne quelquefois l'image d'un oiseau qui n'est jamais en paix, qui se pose sur une branche mais qui doit vite repartir. Voilà, donc ça peut être... En tout cas, on paye pour ces dettes karmiques, pour les mauvaises actions qu'on a posées. Les mauvaises actions sont conditionnées par l'intention, c'est-à-dire que le fait d'avoir une intention mauvaise produira une dette, et il faudra payer plus tard pour cette dette. Alors on paye dans la vie suivante ou dans une autre. C'est pas, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès garanti. La notion de progrès est tout à fait occidentale, encore une fois. Et il n'y a pas de... On n'évolue pas sur la chaîne de la réincarnation, du moins vers le plus. On n'évolue pas nécessairement vers un état meilleur. On peut très bien être un moustique la prochaine fois, par exemple.
Et cela en Occident, ça a été pris effectivement dans l'héritage bouddhique ou pas? Ou est-ce qu'on l'a malgré tout, pas évacué, mais en tous les cas, juste réinterprété à notre bénéfice?
Ça dépend des groupes ou des traditions desquelles on parle, mais dans la culture populaire, j'ai l'impression que la notion de karma est souvent mal comprise parce qu'elle est assez difficile à comprendre. Après, les occidentaux qui reçoivent les enseignements de véritables maîtres tibétains ou autres, en général, on leur explique la version asiatique correcte. Mais aujourd'hui, karma, c'est un petit peu synonyme de fatalité en Occident.
Marion d'Absence. Alors, on peut avoir le sentiment, en lisant votre livre, en refermant les pages, que le bouddhisme à l'occidental est un bouddhisme qui a instrumentalisé en quelque sorte le bouddhisme originel pour ses propres fins. Est-ce que vous auriez, bon, est-ce que ça vous paraît un jugement un peu sévère? Est-ce que vous avez une approche un peu moins rude?
En fait, ce dont je parle dans ce livre, ce n'est pas du bouddhisme des Asiatiques qui se serait implanté en Occident et qui se serait transformé. En fait, ce dont je parle, c'est d'une tradition occidentale qui s'est développée, qui a continué à se développer à partir de la philosophie des Lumières et des utopies du 19e siècle, et qui a simplement pris le nom de bouddhisme. En fait, je parle d'un phénomène qui est essentiellement occidental, essentiellement européen, et qui a pris une apparence tout à fait superficielle de bouddhisme en utilisant quelques mots, quelques expressions, quelques notions, la figure du Bouddha, mais qui est fondamentalement européenne. C'est ce qu'on appelle en anthropologie un phénomène de créolisation, par exemple. C'est-à-dire que La structure, c'est quelque chose d'européen, d'occidental, mais on emploie un peu de vocabulaire qui vient du bouddhisme, mais fondamentalement, c'est une tradition occidentale. Et c'est de ça que je parle, c'est une tradition occidentale qui s'est appropriée le bouddhisme, ou certaines notions bouddhiques, et qui a continué à évoluer, donc à partir d'une vision matérialiste des choses, et donc c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à la méditation dans un but utilitariste, dans un but de mieux-être, qu'on arrive à une commercialisation à outrance de la méditation et du bouddhisme. C'est en fait un phénomène purement occidental en réalité.
Matérialiste, vous voulez dire, et individualiste.
Essentiellement, oui, puisque le but est d'améliorer le confort des personnes et d'établir le bonheur des personnes, et voire même le bonheur sur Terre. Ça n'a jamais été une préoccupation du bouddhisme asiatique, mais au contraire, ça a été une préoccupation de toutes les utopies politiques qui sont nées à partir des Lumières. Donc on est là dans un phénomène purement occidental qui n'a de bouddhiste que le nom.
Merci Marion d'absence. Alors les livres qui défendent certaines idées reçues sur le bouddhisme sans pour autant discréditer la pratique ne sont pas légion. Alors je recommande votre ouvrage et rappelle son titre « Qu'ont-ils fait du bouddhisme ?» et il est publié aux éditions Bayard. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.